Voilà, on chemine dans les Écritures depuis quelques semaines, dans le livre des Actes des Apôtres. Et on est arrivé au chapitre 14. Alors, si vous avez une Bible, vous pouvez l'ouvrir au chapitre 14, je vais vous faire la lecture. Et si vous n'en avez pas, vous pouvez écouter simplement, attentivement. À Icône, Paul et Barnabas entrèrent ensemble dans la synagogue des Juifs. On est dans le premier voyage missionnaire de Paul et Barnabas. Et ils parlèrent de telle manière qu'une grande multitude de Juifs et de Grecs crurent. Mais ceux des Juifs qui ne crurent point excitèrent et aigrirent les esprits des païens contre les frères. Ils restèrent cependant assez longtemps à Icône, parlant avec assurance, appuyés sur le Seigneur qui rendait témoignage à sa parole de sa grâce et permettait qu'il se fasse par leurs mains des prodiges et des miracles. La population de la ville se divisa. Les uns étaient pour les Juifs, les autres pour les apôtres. Et comme les païens et les Juifs, de concert avec leurs chefs, se mettaient en mouvement pour les outrager et les lapider, Paul et Barnabas, en ayant eu connaissance, se réfugièrent dans les villes de la Lycaonie, à Lystre, à Derbe et dans la contrée d'alentour. Et ils annoncèrent la bonne nouvelle. À Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul, et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte « Lève-toi droit sur tes pieds !» Et il se leva d'un bond et marcha. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, les dieux, sous une forme humaine, sont descendus vers nous. Ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure, parce que c'était lui qui portait la parole. Le prêtre de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, amena des taureaux avec des bandelettes vers les portes et voulait de même que la foule offrir un sacrifice. Les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule, en s'écriant « Ô hommes, pourquoi agissez-vous de la sorte ? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous, et vous apportant une bonne nouvelle, vous exhortant à renoncer à ces choses vaines, pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie, quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. » À peine purent-ils, par ces paroles, empêcher la foule de leur offrir un sacrifice. Alors survinrent d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Mais les disciples, l'ayant entouré, il se leva et entra dans la ville. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Ils désignèrent des anciens dans chaque église et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Traversant ensuite la Pisidie, ils vinrent en Pamphylie, annoncèrent la parole à Perge et descendirent à Attalie. De là, ils s'embarquèrent pour Antioche, d'où ils avaient été recommandés à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils venaient d'accomplir. Après leur arrivée, ils convoquèrent l'église et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi. Et ils demeurèrent assez longtemps avec les disciples. Nous avons vu qu'au début de ce voyage missionnaire, l'apôtre Paul et Barnabas se sont rendus à Paphos, c'était la capitale de Chypre, et ils y ont rencontré un certain gouverneur, Sergius Paulus, un homme intelligent, et ils lui ont prêché l'évangile. Ils se sont rendus ensuite à Antioche de Pisidie, et là, dans la synagogue, ils se sont adressés aux Israélites et leur ont prêché l'évangile. À présent, ils arrivent dans les villes d'Icône, de Lystre et de Derbe, et ils rencontrent des hommes profondément idolâtres, et ils leur prêchent l'Évangile. Bientôt, nous trouverons Paul en prison, et au geôlier et à toute sa famille, il prêchera l'Évangile. Puis à Éphèse, dans un milieu totalement gagné à l'occultisme, il prêchera, devinez quoi, l'Évangile. Lorsqu'il arrivera à Athènes, dans un milieu rempli de philosophes grecs, qu'est-ce qu'il prêchera? L'Évangile. Vous l'avez compris, vous avez compris l'idée. Il a peut-être changé de ton selon son auditoire, selon les circonstances, mais il n'a jamais changé son propos. Il a prêché l'Évangile. Il y a de nombreux symptômes dans la maladie mortelle dont l'homme souffre. Le péché prend toutes sortes de formes, mais il n'y a qu'un seul remède, et le remède, c'est l'Évangile. Et c'est pour ça que je vous propose ce matin de voir ensemble toujours le même message, toujours l'Évangile, toujours les mêmes réactions à l'Évangile, et puis toujours le même but pour les apôtres, l'implantation d'Église. Ils parlèrent, dans le verset 1, de telle manière que beaucoup crurent. Ils prêchaient l'Évangile. Ils ont prêché avec assurance. La Bible dit au verset 3, « Appuyés sur le Seigneur, ils rendaient témoignage à la parole de sa grâce. Ils annonçaient la bonne nouvelle » au verset 7. Ils apportaient la bonne nouvelle, verset 15. Ils évangélisaient, verset 21. Mais qu'est-ce que l'Évangile, au fond? Je voudrais qu'on regarde cela d'un peu plus près. L'Évangile, ce sont des faits, tout d'abord. Des faits certains. Dieu, regardant la race humaine, a vu que tous les hommes étaient perdus et en ruine à cause de leurs péchés. Dans son amour, il a envoyé son Fils unique, le Seigneur Jésus-Christ, né d'une vierge, vivant 33 ans, une vie parfaite, dans une obéissance totale à Dieu son Père. Il était pleinement homme et pleinement Dieu. Il l'a montré par ses nombreux miracles, créant du pain et des poissons sans rien, calmant la mer et le vent avec une seule parole, faisant voir les aveugles, délivrant les démoniaques, ressuscitant les morts. Au temps marqué, il a été trahi et vendu par Judas, selon ce qui est écrit dans les Écritures. Il a été crucifié et il a été mis au tombeau, selon les Écritures. Mais parce qu'il est le Seigneur de la vie, qui seul possède l'immortalité, il est ressuscité des morts, selon les Écritures. Il est apparu vivant à de nombreux disciples pendant 40 jours. Ils ont pu observer que c'était la même personne qui avait été placée dans le tombeau et qui était vivant. Après 40 jours, il est monté au ciel à la vue de tous ceux qui étaient là. Il s'est assis à la droite de Dieu le Père, d'où il intercède pour nous. Il reviendra pour juger les vivants et les morts. Ce sont des faits certains, attestés par les Écritures, attestés par les historiens de l'époque, attestés par ceux qui ont été les témoins de toutes ces choses. De cette histoire est née une famille qui se réunit chaque dimanche en son honneur, et cela depuis 2000 ans sur toute la surface de la terre. L'apôtre Paul dira en 1 Timothée chapitre 1 verset 15, « C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. » Paul prêchait ses faits, l'Évangile. Mais il prêchait aussi des doctrines certaines. Il prêchait que Jésus-Christ a obtenu par sa mort une pleine expiation, un plein rachat pour nos fautes, une expiation pour le péché de son peuple, afin que quiconque croit en lui soit délivré de la colère de Dieu. Jésus-Christ a souffert et est mort pour nous, lui le juste pour les injustes, afin de nous conduire à Dieu. C'est en vertu de cette expiation que l'apôtre Paul pouvait prêcher cette autre doctrine, la doctrine du pardon. Dieu est juste tout en justifiant le pécheur qui croit. Tous les péchés peuvent être pardonnés aux hommes à la simple condition qu'ils croient au Seigneur Jésus-Christ et non dans leur propre mérite. La Bible dit qu'ils reçoivent à ce moment-là le Saint-Esprit. Pécheurs, regardez à la croix et vos péchés seront effacés. Regardez aux souffrances de Jésus-Christ. Regardez à ses plaies. Regardez aux coups qui sont tombés sur lui. Regardez à ses mains, à ses pieds percés par les clous. Regardez à son dos lacéré par le fouet. Regardez à son côté percé par la lance. Regardez-le baisser la tête et rendre son esprit à Dieu. Jugez vous-même si c'était suffisant pour payer pour toutes vos fautes, pour tous vos péchés. Jugez s'il faudrait ajouter encore quelque chose à ses souffrances et à sa mort, à son abandon du Père. Oh non, oh non. Dieu nous offre un plein pardon à cause de l'œuvre de Jésus-Christ. Écoutez encore, il vous lavera, il vous revêtira de sa justice. Dans les Écritures, on trouve souvent les croyants qui sont revêtus d'un fin lin. Un fin lin, c'est le symbole d'une vie qui a été rachetée, complètement lavée, défaite de tous ses péchés. Revêtu de la justice de Jésus-Christ, cette justice qui nous faisait tellement défaut. Dieu nous la donne, nous la confie à cause de Jésus-Christ. Il la met sur notre compte. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça, c'est la doctrine de la justification. Ne mettez pas votre confiance dans ce qui provient de l'homme, qui est tellement changeant, mais confiez-vous en Jésus seul. Toutes les Écritures témoignent de cela. La doctrine de l'expiation, la doctrine du pardon, la doctrine de la justification, avec toutes les vérités qui viennent en elle. Et ça, c'est juste l'évangile que Jésus a accompli et que l'apôtre Paul et Barnabas prêchaient. Enfin, l'évangile, c'est aussi un ordre certain. Il a dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. C'est cela, c'est un ordre. Il a encore dit, lève-toi et sois baptisé à cause du pardon de tes péchés. Le baptême, c'est simplement l'identification publique du pécheur à son sauveur. Il suit nécessairement la foi qui sauve. Voilà ce que Paul prêchait et voilà ce que ces hommes ont entendu. Au verset 9, il est dit qu'il nous est parlé d'un homme impotent des pieds, boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Et il est dit, verset 9, il écoutait parler Paul. Et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, lui dit, lève-toi droit sur tes pieds. Et il se leva d'avant. Cet homme, il était suspendu à ses lèvres, il écoutait, il comprenait et il a cru dans son cœur. Voilà l'évangile, toujours le même évangile, après 2000 ans, le seul évangile qui transforme à une vie, qui fasse passer un homme de la mort à la vie, du péché à la justice. Eh bien, c'est cet évangile que Paul prêchait, que nous nous efforçons, avec la grâce qu'il nous donne et sa parole de prêcher. À l'évangile, toujours prêché ainsi, il y a toujours les mêmes réactions. Et ça doit être vraiment un encouragement pour nous et nous aider à nous préparer à cela. Regardez, dans le verset 1 et 2, il est dit « À Icone, Paul et Barnabas entrèrent ensemble dans la synagogue des Juifs et ils parlèrent de telle manière qu'une grande multitude de Juifs et de Grecs crurent. » Formidable, ça c'est la première réaction. « Mais ceux des Juifs qui ne crurent point excitèrent et aigrirent des esprits des païens contre les frères. » La foi et l'hostilité. Ça divise, l'évangile divise le monde en deux. Regardez verset 4, la population de la ville se divisa. Les uns étaient pour les juifs et les autres étaient pour les apôtres. parfois à l'intérieur d'une même famille, les uns croient et les autres luttent, résistent, s'opposent à ce même évangile. L'hostilité, c'est ce qui m'étonne toujours, c'est de voir comment les gens habituellement ennemis les uns des autres peuvent s'accorder quand il s'agit de combattre l'évangile. Ici, les juifs et les païens qui n'avaient aucun échange, les juifs et les païens se mettent ensemble et avec leur chef, ils vont combattre l'apôtre Paul et Barnabas et l'évangile. Des gens qui n'étaient pas liés s'accordent pour s'opposer. Rien d'étonnant en fait, parce que lors de la crucifixion de Christ, Hérode et Pilate sont devenus amis d'ennemis qu'ils étaient auparavant pour condamner et rejeter Jésus-Christ. Paul et Barnabas ont persévéré dans cette opposition à Icône. Il est dit au verset 3, pendant assez longtemps. Et j'aime cette pensée-là parce qu'il est dit, parlant avec assurance, appuyé sur le Seigneur qui rend des témoignages à la parole de sa grâce. Il ne faut pas s'effrayer de l'opposition que nous rencontrons dans l'annonce de l'Évangile. Dieu a travaillé efficacement dans cette période-là. On ne sait pas ce que ça signifie « assez longtemps », mais c'était assez longtemps. Et c'était peut-être des semaines, des mois, mais pendant ce temps-là, cette période-là, le Seigneur a travaillé dans les cœurs. Et l'opposition mettait en évidence les arguments des uns et des autres. L'opposition qui est purement de l'hostilité. Et puis il y avait ceux qui commençaient à chercher à comprendre. Et l'apôtre continuait avec Barnabas à prêcher et à annoncer avec assurance le message de l'évangile, de sorte que des âmes venaient à Jésus-Christ et s'ajoutaient. L'opposition, parfois, c'est de l'indifférence. Vous savez, quand vous avez rencontré votre fiancé et que vous voulez le présenter à votre famille, à vos amis, vous êtes là, vous choisissez les meilleurs mots, vous êtes tout excité de pouvoir le faire, vous avez de la joie à leur partager, à leur montrer comment il est grand, beau et intelligent. Si les gens sont totalement indifférents, vous savez, ils ne regardent même pas, c'est qui ? C'est blessant. Ça, c'est de l'opposition aussi, c'est de l'hostilité, l'indifférence. Parfois, l'opposition s'opère avec ruse, comme à Lystre, hein, où après la guérison miraculeuse de ce boiteux, la foule a voulu sacrifier en l'honneur des évangélistes. Ils n'ont pas compris, parce qu'ils parlaient en langue lycaonienne, cette langue que ne parlaient pas Paul et Barnabas. Tant qu'ils ont vu s'agiter, ils se disent « Waouh, il se passe quelque chose là !» Après le message de l'évangile qu'ils venaient d'annoncer, la transformation de ce boiteux. Et puis, à un moment, ils ont compris qu'ils étaient en train de vouloir sacrifier un bœuf en l'honneur des évangélistes. Et ils pensaient que l'un, c'était les dieux qui les visitaient. Paul était Mercure, le porte-parole de Jupiter. Et Barnabas était Jupiter en personne qui les visitait. Vous savez, la tentation est grande à ce moment-là. Quand au moment, avec le même message, vous avez failli être lapidé. Et que d'un moment à l'autre, on vous dit, « Oh, c'est formidable, organisons une grande fête en l'honneur de ces évangélistes. Organisons une grande fête, un grand barbecue géant. Tout le monde est là, et puis on va les mettre bien haut sur l'estrade. » Et là, ils ont compris, leurs regards se sont tournés vers nous. Nous ne pouvons strictement rien pour eux. Nous sommes des hommes de la même nature que eux. Nous ne pouvons rien accomplir dans leur vie. Ils n'ont rien compris, ils sont opposés, ce qu'ils veulent c'est adorer le Dieu qui se sont fait eux-mêmes. À ce moment-là, ils ont déchiré leurs vêtements, ils ont dit « Mais non, ne faites pas ça !» C'est stupide, c'est vain, c'est juste de l'idolâtrie. Nous ne pourrons rien faire pour vous, de la même que Jupiter, Mercure ou n'importe quel de votre Dieu ne pourra rien faire pour vous. Nous vous annonçons le Dieu vivant. Jésus-Christ, celui qui était mort et qui est revenu à la vie, celui qui a accompli votre salut, celui qui est mort à votre place. Lui, il a fait quelque chose pour vous. Lui, il peut encore accomplir ses desseins merveilleux à votre égard. Mais parfois, l'hostilité est violente, juste. C'est ce qui s'est passé ici. Ils ont réussi à empêcher ces gens de Lystre de leur offrir des sacrifices. Mais comme ils étaient déjà passés à Antioche, à Icône, plusieurs qui étaient vraiment hostiles se sont précipités dans la ville. Et quand ils ont trouvé Paul, ils l'ont lapidé purement et simplement. C'est la persécution. Verset 19. Alors survinrent d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Ils pensaient s'être débarrassés de Paul cette fois-ci. Vous voyez l'opposition, à quel point elle peut aller. Paul échappe cette fois-ci à la mort, mais nous savons qu'il succombera par la suite avec bien d'autres de ses compagnons. Mais gloire à Dieu, le même message prêché par les mêmes hommes suscite la foi et conduit aussi des âmes au salut. Et c'est flagrant ici, notre homme, notre boiteux, impotent, écoutait l'apôtre Paul et il avait la foi pour être guéri. La Bible dit « la foi vient de ce qu'on entend, quand ce qu'on entend vient de la parole de Christ ». Il s'est dit « ça a l'air vrai ». Et plus il écoutait, il dit « ça ressemble vraiment à la vérité ». Il est en train de décrire mon propre état, l'état de mon cœur, de pécheur. Il est en train de parler de Jésus. Effectivement, j'ai entendu qu'il a fait ses miracles. J'ai entendu qu'il a été crucifié. J'ai entendu que le tombeau est vide et qu'il est ressuscité d'entre les morts. Et plus il écoutait, et plus il comprenait que c'était la vérité. Et puis, il a dit dans son cœur, « Je sais que c'est vrai. Jésus est un si grand sauveur qu'il peut certainement me guérir. Ses jambes, qui ne m'ont jamais porté, peuvent devenir fermes et droites simplement par la volonté de Jésus. » Et Paul, voyant sur son visage que cet homme avait la foi pour être guéri, lui dit « Lève-toi, droit sur tes pieds !» Et il se leva d'un bond et marcha. Je trouve ça étonnant. Simplement par un regard, Paul a vu ce qui se passait au plus profond de son cœur. Est-ce possible? Je vous assure que ça se voit. Je vois dans vos yeux, si vous comprenez ce que je dis ce matin. Je vois dans vos yeux si pour vous c'est comme de la grammaire chinoise. Paul, il prêchait depuis des années. Il avait prêché à une multitude, à des foules différentes dans toutes sortes de circonstances. Et il avait appris à discerner l'impact de son message dans les cœurs, simplement en regardant ses auditeurs. Je sais si vous êtes fatigué de m'entendre, parce que vous êtes là, regardez votre monde. Je sais si vous êtes indifférent ou juste curieux. Si tout en me regardant, vous pensez au poulet qui est dans le four. Ou si vous êtes suspendu à mes lèvres pour entendre la suite. Ça se voit. Ça se voit. On voit dans les yeux le désir de comprendre, le désir de connaître, le désir de saisir ces vérités s'allumer dans le cœur. Ça se voit dans vos yeux. Lorsque la foi naît au fond d'un cœur, le visage se transforme. Parce que normalement, il y a sur le visage l'anxiété douloureuse qui est due au jugement, à la menace de la mort qui pèse sur chacun d'entre nous. Et quand on croit, cette menace-là disparaît. Et sur le visage vient l'apaisement, le calme. Et ça, c'est presque palpable. C'est ce que Paul a vu chez cet homme. Et voir ça, ça fait oublier toutes les souffrances, toutes les difficultés. Voir naître la foi dans un cœur, ça vous fait oublier les douleurs de l'enfantement. Je vois Valérie avec son bébé. Le fait de l'avoir dans ses bras, ça fait oublier les heures de travail et de douleur. Est-ce que vous avez la foi pour être sauvé ce matin? Est-ce que vous avez la foi comme ce boiteux pour être sauvé? Je sais que beaucoup ici, dans Giovanni, ont la foi qu'ils sont sauvés. C'est pas amen, hein, et gloire à Dieu pour ça. C'est pas à eux que je voudrais m'adresser à présent, mais plutôt à ceux qui ont la foi pour être sauvés et qui ne s'en sont encore jamais vraiment saisis. Vous êtes comme ce boiteux. Vous avez la foi que Christ peut vous guérir, mais vous n'êtes pas encore debout. Vous avez la foi pour être sauvé, mais vous auriez du mal à le dire. Vous croyez que Jésus peut vous sauver, vous croyez qu'il a la volonté de le faire, vous croyez qu'il a accompli toutes choses pour que vous le soyez. Vous placez en lui votre confiance et en lui seul votre confiance, et non dans les bonnes œuvres que vous auriez pu faire, non dans les souffrances que vous avez connues, rencontrées, vécues, ni dans les mérites, ni dans votre famille, mais simplement dans le Seigneur Jésus. Écoutez maintenant. Lève-toi et sois sauvé. C'est cela qu'il dit. Lève-toi et sois sauvé. Lève-toi et saisis ce que Jésus-Christ a accompli pour toi. Obéissez simplement. N'attendez pas une expérience ou une sensation extraordinaire. Vous n'avez pas besoin d'attendre un rêve surprenant ou une vision ou une explosion de sentiments, mais simplement croyez et recevez ce que Dieu offre avec reconnaissance. Le boiteux, il n'a pas eu de picotement dans ses jambes, il n'a pas eu de grand frisson dans son dos, dans sa colonne vertébrale. Il s'est simplement levé. Il a simplement obéi à l'ordre du Seigneur. Ne craignez pas qu'après avoir cru en lui, vous abandonniez le Seigneur et perdiez votre salut. Ne croyez pas cela. Pensez-vous que ce boiteux s'est dit « Ah, je crois que Jésus peut me guérir au moins 2 heures. Bon, » peut-être même 2 jours ou 2 ans. Non, il a dit « Je crois que Jésus-Christ peut me guérir. » De la même manière, si vous croyez en Jésus-Christ qu'il peut vous sauver, il va vous sauver et vous donner la vie éternelle. Et combien ça dure la vie éternelle? C'est pour l'éternité. Ça ne va pas s'arrêter. Lève-toi simplement et sois sauvé. On a vu toujours le même message, on a vu toujours les mêmes réactions, l'hostilité ou la foi. Voyons à présent toujours le même but, l'implantation d'églises. Dans chaque ville où ils se sont proposés d'annoncer l'évangile, chaque fois qu'il y a eu des croyants, que ce soit des juifs ou des païens, des hommes ou des femmes, des riches ou des pauvres, des jeunes ou des vieux, ils les ont rassemblés en église. formant un solide assemblage en vertu du Saint-Esprit. Et pour que l'évangile, que l'assemblage, l'Église soit solide, parce qu'il y a des dangers à être des messagers de l'Évangile, parce qu'il y a aussi des tribulations pour ceux qui persévèrent dans la foi, l'Église doit être bâtie avec de vrais disciples. Regardez verset 20, il est dit « Mais les disciples, l'ayant entouré, il se leva et entra dans la ville. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. Et quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône, à Antioche. » La pensée de l'apôtre Paul, il prêchait l'Évangile, et après avoir prêché l'Évangile, il avait en vue de montrer toutes les dimensions de Jésus-Christ pour que la personne soit solide, soit enracinée dans la foi. Quand on fait le groupe découverte, le groupe, les études que Giovanni a suivies et que d'autres suivent là, c'est simplement dans cette perspective d'établir des disciples, des gens qui comprennent la parole, qui sont capables d'apprendre à suivre, à se nourrir du Seigneur et à vivre cette vie de chrétien jour après jour. Des hommes et des femmes qui ont pris position, qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ, qui sont identifiés à Jésus-Christ dans les eaux du baptême. Des hommes et des femmes qui apprennent à s'appuyer sur le Seigneur. J'aime cette expression au verset 3 de notre chapitre. Il est dit que l'apôtre Paul et Barnabas, parlant avec assurance, appuyaient sur le Seigneur. Voyez-vous, un disciple, c'est quelqu'un qui a une relation personnelle avec Jésus-Christ et qui peut s'appuyer sur lui, qui ne dépend de Jésus-Christ et non des hommes. Leur destinée est entre ses mains. Ils lui font confiance. Ils connaissent le Dieu vivant. Ils connaissent le Dieu créateur, le Dieu gracieux. Dans notre passage, au verset 15 et 17, il dit, verset 16, « Ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie, quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant du bien, en dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. » Voyez-vous, Dieu est un Dieu de grâce. Même envers des hommes pécheurs, des hommes idolâtres, des ennemis de Dieu, il déploie envers eux ses bontés, ses grâces, en leur apportant la nourriture, les pluies pour les bonnes saisons. Voyez-vous la grâce que Dieu a envers vous ? Même si vous ne croyez pas en lui, c'est lui qui soutient votre vie. C'est lui qui le fait. Ses disciples en sont conscients. Ils savent que c'est un Dieu de grâce. Ils ont l'expérience du Dieu vivant. Ils ne s'effraient pas aux premières difficultés. Ils ont appris au verset 22 que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Ils ont été exhortés à persévérer dans la foi. Ils se sont préparés à faire face aux difficultés, aux tentations. L'Église doit être bâtie aussi avec un saint enseignement. J'aime beaucoup le verset 21 où il est dit « Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône, à Antioche. » Les trois villes où ils ont été persécutés, ils y retournent. Et ils ont fortifié la foi des disciples. J'ai pensé « Waouh, ça c'est un double message ». Il avait été laissé comme mort. Vous savez, vous pouvez vous dire, bon, là j'ai fait le maximum pour cette ville. Je peux peut-être passer à une autre. Et non, il est retourné et il a dit, mes frères, mes sœurs, la vie chrétienne, c'est pas un long fleuve tranquille. Il y aura des tribulations, il y aura des difficultés, il y aura des soucis. Mais prenez courage. Jésus-Christ, qui m'a relevé et qui m'a renvoyé vers vous, le fera aussi pour vous, et il prendra soin de vous. Les souffrances, les épreuves, l'adversité, l'opposition, ça c'est le lot commun des croyants. Ne pensez pas que nous en sommes, soyons à l'abri. Les choses, j'ai pensé cette semaine, des événements qui ont frappé la ville de Toulouse et Montauban, peut-être cet homme aurait pu débarquer dans notre église le dimanche matin et tirer à bout portant sur plusieurs. C'est ce qui arrive dans quantité d'églises dans certaines contrées du monde. Est-ce que Dieu ne nous aurait plus aimés? Est-ce qu'il n'aurait plus pris soin de nous? Bien sûr que non. Les souffrances sont aussi notre lot, notre part. Si vous regardez le Nouveau Testament, vous allez voir que l'apôtre Paul, il a reçu 5 fois 40 coups moins 1. Il a fait naufrage 3 fois. Il a été lapidé 1 fois, qu'on vient de voir. Il a été en péril à de nombreuses reprises. Il a été attaqué par des brigands. Il a été victime de la faim, de la soif. Il a eu froid, il a été nu. Et pourtant, y avait-il un homme marchant plus près de Christ que lui ? Non. La vie chrétienne n'est pas exempte de douleur. Mais le Seigneur accomplit au travers de ces choses, même les choses les plus dures qui nous atteignent, une œuvre merveilleuse pour laquelle nous le louerons éternellement. Bien souvent, nous ne voyons rien avec les yeux de notre tête, mais nous pouvons voir avec les yeux de nos cœurs jusque dans l'éternité. Faire confiance à ce Dieu merveilleux, à ce Dieu plein de bonté qui nous a aimés alors que nous ne l'aimions pas, pour prendre soin de nous, il le fera assurément. À Timothée, il dira « Combat le bon combat, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. » Voyez-vous, c'est cela la vie chrétienne. Et puis, l'église qu'il cherche à établir, c'est une église qui doit être structurée. Au verset 23, il est dit « Ils désignèrent des anciens dans chaque église et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. » Ils ont organisé les églises. Ils ont établi des anciens, ils les ont chargés de veiller sur le troupeau et de l'enseigner. Ils ont établi des responsables pour poursuivre cette œuvre d'encouragement et cette œuvre d'affermissement du corps de Jésus-Christ, de l'Église. Enfin, je termine avec ça, l'Église peut et doit dépendre du Seigneur Jésus. Dans le verset 23, il dit « Ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. » Je suis frappé par ce passage parce que ils ont passé quelque temps dans cette ville, ils ont fait des disciples, ils ont amené plusieurs au baptême, ils ont formé des hommes, ils les ont établis comme les responsables de l'œuvre et puis ils sont partis. Mais vous savez, c'est comme une mère qui dirait « Je vais abandonner mon enfant là, il va se débrouiller tout seul. » La chose, c'est que l'enfant a aussi un père et que le père reste et qu'il prendra soin parfaitement de cet enfant. Et ici, c'est la même chose. Dans l'Église, Dieu prend soin de son Église. On peut s'appuyer vraiment sur lui. Je crois que Paul et Barnabas ont agi comme si toute chose dépendait d'eux. Ils ont fait leur travail avec zèle, avec application. Ils se sont donnés tout entier à ce travail. Mais ils n'ont jamais oublié que toutes choses dépendent de Dieu. Quel équilibre! Ces disciples du Seigneur avaient cru, donc la connexion avec le Seigneur avait été faite. À présent, ils allaient pouvoir dépendre de Dieu. Faire un disciple, ce n'est pas faire un disciple pour soi, c'est faire un disciple de Dieu, du Seigneur. Parfois, nous croyons que les choses dépendent tellement de nous que nous n'osons pas. Luc, il nous rapporte ici au verset 26, que tout ce que l'apôtre Paul avait fait avec Barnabas, c'est parce qu'ils avaient été recommandés par l'église d'Antioche de Syrie, recommandés à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils venaient d'accomplir. C'est la grâce de Dieu qui opère l'œuvre. Quand Paul et Barnabas rentrent à Antioche, et puis qu'ils rendent des comptes à l'église, au verset 27, il est dit, à leur arrivée, ils convoquèrent l'église et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il, Dieu, avait ouvert aux nations la porte de la foi. Voilà. Nous avons toujours le même message. Nous avons toujours les mêmes réactions à ce message. Nous avons toujours le même but. L'implantation d'églises nouvelles. Poursuivons toujours, bien-aimés, avec le même évangile, sachant qu'il produira toujours ces deux mêmes réactions avec toujours le même but, implanter, établir des anciens dans de nouvelles églises, tout cela pour la gloire de Dieu. Avant de terminer, avant de chanter un cantique, j'aimerais m'adresser peut-être à un boiteux, une boiteuse, qui a écouté, qui a entendu le témoignage de Giovanni, qui a entendu la parole de Dieu, l'évangile, qui a compris que ce n'est pas une fable, c'est la vérité. Les choses se sont accomplies à la lettre, sont des faits réels, sont des véritables bénédictions qui nous sont apportées par l'œuvre de Jésus-Christ. Vous pouvez simplement croire, placer votre confiance dans ce message de l'Évangile. Si comme ce boiteux, vous aviez la foi pour être sauvé, j'aimerais que vous fassiez la même chose que lui, que vous vous leviez. Là où vous êtes, simplement vous vous levez, vous dites, moi, ce matin j'ai compris, je me lève, je veux ce message-là. Là où vous êtes, devant tous, comme ce boiteux, levez-vous si vous avez compris ce message, si vous le voulez pour vous-même.